Le texte pour le message de ce matin donc se trouve dans le passage que nous venons de lire à l'instant. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 13. Gardez votre Bible ouverte. Donc le chapitre 6 du livre d'Ésaïe raconte une rencontre bouleversante du prophète Ésaïe avec Dieu. Et cette rencontre a changé sa vie. Elle a eu lieu l'année de la mort du roi Ozias, qui se situe au cours de l'année 740 avant Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ce détail nous aide à comprendre le contexte, qui est très important. Ce qui veut dire que sous son règne, le royaume de Juda est devenu économiquement et militairement fort, avec un port sous la mer Rouge, des citadelles, des villes fortifiées. Vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques 26, 5 à 15. Sa renommée s'étend dans le monde. Il a été admiré à cause de sa puissance militaire. 2 Chroniques 26, versets 11 à 15. Donc le roi Ozias a connu 52 ans de règne de paix, de stabilité, de prospérité matérielle. Mais hélas, sur le plan spirituel, un grand nombre s'était éloigné de l'Éternel et vivait dans le péché tout en continuant d'offrir des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. 2 Rois 15, versets 1 à 4, surtout le verset 4. Le peuple de Juda est dans une grande obscurité spirituelle. D'ailleurs, par orgueil, le roi Ozias entra dans le temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Mais rappelez-vous que ce service est réservé uniquement aux sacrificateurs. Ainsi, il était frappé de la lèpre et ne guérit pas de cette maladie jusqu'à sa mort. Donc la mort du roi Ozias a mis fin à 52 ans de règne de paix, de stabilité, de prospérité matérielle, mais dans une ère de grande pauvreté spirituelle et de grande obscurité spirituelle. Mais rajoutez à cela le contexte international qui n'est pas rassurant, à cause de la menace assyrienne qui plane sur Juda. Nous pouvons presque sentir la tension qui régnait en nous mettant dans la peau des contemporains d'Ésaïe. On peut se poser beaucoup de questions, mais que va-t-il se passer maintenant? Qui va conduire le peuple? Les ennemis vont-ils envahir le pays? C'était une année de crise nationale, en tout point de vue. Et c'est dans cette période de crise, l'année de la mort du roi Ozias, que Dieu a choisi d'appeler, de purifier et d'envoyer le prophète Ésaïe. En passant, j'intitulerai ce message « Où diriger nos pensées dans la crise ?» Où diriger nos pensées dans la crise ? À chaque époque, sa crise. Ésaïe avait la sienne. Pour nous, aujourd'hui, nous traversons la crise sanitaire mondiale à cause du Covid-19 et ses conséquences multiples, comme la crise économique sans précédent, avec beaucoup d'incertitudes pour le futur, sans oublier la crise au quotidien liée aux problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes relationnels, peut-être, problèmes professionnels et que sais-je. Je vous invite, dans notre réflexion, à tirer de ce passage des principes pour armer nos pensées afin de nous aider à vivre et surmonter une crise. Pour cela, nous allons considérer premièrement, une vision juste de Dieu. versets 1 à 4. Puis, en second lieu, une vision juste de nous-mêmes, selon le verset 5. Pour terminer, le troisième point, une vision juste de la crise pour permettre de servir le Seigneur. Sans tarder, passons au premier point du message, à savoir que face à une crise, il faut avoir une vision juste de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'une crise survient, certaines personnes, dues au choc ou la crainte des conséquences, sont comme paralysées, traumatisées. Il y a d'autres qui essaient de fuir la réalité de la crise en se réfugiant dans l'alcool, la drogue. D'autres deviennent hyperactifs, secouent ciel et terre, voulant chercher une solution rapide. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais notre passage, jetant le regard, comment a-t-il fait Ésaïe dans le contexte de crise traversée par son époque? Nous lisons au verset 1, à nouveau, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Il est intéressant de remarquer, selon le verset 1, qu'Ésaïe ne se trouvait ni dans le palais, ni sur la place publique, mais dans le temple, cherchant le Seigneur. C'est très important de le souligner car c'est tout à fait remarquable dans une ère de grande obscurité spirituelle du peuple du Juda, comme nous l'avons évoqué auparavant. Mais qu'a-t-il vu dans le temple? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. L'image qu'il voit, c'est le Seigneur qui ne s'agitait pas. La crise ne l'avait pas pris par surprise. Le Seigneur était calme, il était assis. Dieu sait qu'Ésaïe avait besoin de constater cela. Oh combien, nous aussi, dans une crise, nous avons tellement besoin de revenir et de constater que Dieu règne. Dieu sait exactement ce que Ésaïe avait besoin dans la crise. Il avait besoin de la vision juste de Dieu lui-même. Le Seigneur assis sur un trône. Cela souligne le fait que Dieu règne, comme je viens de l'évoquer. Oui, le psaume 22, verset 29, nous dit « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » Le règne appartient à l'Éternel, le croyez-vous? Chers frères et sœurs, la foi dans le règne de Dieu permet de voir au-delà des apparences contraires. Ce psalmiste insiste et affirme « Il domine sur les nations. » Il domine sur les nations, cela veut dire que Dieu peut infléchir le cours de l'histoire à travers les agissements des dirigeants d'un pays, des nations. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu domine sur les nations veut dire que Dieu fixe l'époque où un empire existent puis disparaissent, les uns après les autres. L'Empire assyrien, puissant, redoutable, existe pour une période et puis disparaît. Et un autre empire se relève, l'Empire de Babylone, puis l'Empire médo-perse, grec et romain. Dieu domine sur les nations veut dire que Dieu peut utiliser même les dirigeants de ces nations pour accomplir sa volonté. Je voudrais juste m'arrêter un instant ici pour vous montrer l'importance de cela. Rappelez-vous, lors du jour de la Pentecôte, Pierre se levait et disait, nous lisons dans Actes 2, 23, cet homme, parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Il s'adresse à ses auditeurs, vous, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et nous le savons aussi, Pierre et Jean, suite à une guérison d'un homme boité de naissance, a été empêché par les religieux de pouvoir parler et au nom de Jésus. Et nous lisons au verset 27 et 28 à ce sujet, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint Hérode et Ponce Pilate, qui était à l'époque le gouverneur romain à Jérusalem. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Verset 28, écoutez bien, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ça veut dire que la souveraineté de Dieu est à l'œuvre derrière cet acte odieux des soldats romains de crucifier Jésus sur la croix. C'est important de nous rappeler que Dieu règne. Et même, comme nous le voyons aussi, le pire des actes criminels, Dieu peut se servir pour accomplir ses desseins, sans pour autant qu'il est à l'origine du mal. Il faut bien le souligner. Mais revenons maintenant à Ésaïe. Quel est l'impact de cette vision de Dieu chez Ésaïe? On peut dire qu'il est rempli de confiance et de paix, sachant que même face aux incertitudes pour le futur, face aux crises, il sait que tout est entre les mains de Dieu. Il sait que Dieu règne souverainement. Comment peut-on dire ça? On peut dire cela parce que cette confiance se voit dans la manière, dans les termes très forts qu'il utilise pour décrire un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe la prophétie concernant la destruction à venir de l'Empire assyrien. Et j'aimerais que vous regardiez cela avec moi dans votre Bible. Ésaïe chapitre 14, versets 26 à 27. C'est très important. Il répète à trois fois que c'est la résolution divine. Ça veut dire ce que Dieu a décrété pour la destruction de l'Empire assyrien qui va s'accomplir. Et rien ne résistera. Lisons Ésaïe 14, versets 26 et 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé, voyez le mot, arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » C'est l'Éternel qui parle. Verset 25, « Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. » Et verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Terme résolution une troisième fois. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ici, c'est la prophétie relative à la destruction de l'Empire assyrien qui avait dominé l'Empire babylonien. Et ici, selon beaucoup de commentateurs, Ésaïe fait allusion à la déroute de l'armée assyrienne de Sennachérib devant Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ. En ce moment-là, 180 000 hommes de guerre mourut en une seule nuit, frappé par l'ange de l'Éternel. Ésaïe 37, verset 36. Mais le plein accomplissement de cette prophétie se produira sous la grande tribulation pendant le règne de l'Antichrist. Chers frères et sœurs, Peut-être cette réalité du règne de Dieu et sa souveraineté n'a plus d'effet sur vous. Face aux situations de crise diverses que vous pouvez traverser dans vos propres vies actuellement, peut-être au niveau de la santé, sous l'aspect pécuniaire, domaine relationnel, émotionnel, spirituel, et peut-être c'est le cas pour vous ce matin. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, souvent dans la crise, nos pensées sont focalisées sur la situation présente et nous perdons de vue rapidement que Dieu règne. Ainsi, nous perdons de vue ce que Dieu veut accomplir à travers la crise dans notre vie. Oui, la Bible affirme que Dieu règne, il contrôle tout. Il réalise ses desseins jour après jour dans ce monde et dans notre propre vie. Et oui, je vois dans ma propre vie mon grand besoin aussi face à la crise quand cela vient frapper à ma porte de revoir et de repenser à ce fait indéniable, immuable, Dieu règne. Peu importe les circonstances. Oui, on doit éduquer nos pensées à avoir une vue globale de l'œuvre de Dieu dans l'histoire des nations, dans l'histoire avec son peuple dans la Bible, pour nous aider à mettre notre confiance totale dans le règne et la souveraineté de Dieu. Combien nous avons besoin régulièrement de prêcher à nous-mêmes notre besoin de nous confier dans le règne de Dieu et sa souveraineté quand les crises de toutes sortes semblent en apparence nous prouver le contraire. Prêcher à nous-mêmes, par exemple le psaume 22, verset 29, « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » On doit les mémoriser, repenser quand on est face à la crise. Par exemple, prêcher à nous-mêmes, Psaume 93, versets 1 et 2, « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. » Vous voyez deux caractéristiques du règne de Dieu qui est souligné ici? Un règne stable et universel. Aussi le monde est ferme, il ne vacille pas. Voyez, deuxième caractéristique, c'est un règne éternel. Ton trône est établi dès les temps anciens, de toute éternité. Oui, nous avons besoin de prêcher à nous-mêmes de telles vérités. Et une dernière application, imitez l'exemple d'Ésaïe comme nous venons de le voir. Pour rester calme dans les moments de crise, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit, dans une vision juste de qui est Dieu, selon sa parole. Sans tarder, passons maintenant au deuxième point du message. Face à la crise, nous avons besoin d'une vision juste de nous-mêmes pour la surmonter. Rappelez-vous, en regardant vers le Seigneur, Ésaïe a vu deux séraphins. Les séraphins, c'est une catégorie d'anges qui exercent un ministère en rapport avec la sainteté de Dieu. Et deux séraphins qui volaient au-dessus de son trône. Il les entendait crier l'un à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Oui, lorsqu'Ésaïe voit la gloire de Dieu dans le temple, il a pris conscience de la sainteté de Dieu. Mais c'est quoi au juste la sainteté? La racine, c'est saint, veut dire mis à part, séparé d'eux. Mais quand le mot sainteté est appliqué à Dieu, il met l'accent sur sa transcendance. Ça veut dire quoi? Dieu est transcendant, veut dire qu'il est mis à part sans égal. Car il est absolument distinct de ses créatures, donc demeure au-dessus de ses créatures. Dieu est transcendant veut dire donc par rapport à l'homme, Dieu est complètement différent. Dans le sens qu'il est saint et l'homme pécheur. Et de ce fait, il est exalté au-dessus de l'homme et par conséquent, l'homme reconnaît son indignité. Il est impropre à la présence de Dieu, inapte à le servir. Et c'est bien l'effet que produit la vision de la sainteté de Dieu sur la personne d'Ésaïe. Au verset 5, nous lisons « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc la première réaction d'Ésaïe, le mot qui sort de sa bouche, « malheur », qui est l'opposé des béatitudes. C'est l'annonce de la destruction complète. Parce qu'en disant malheur, il avoue être passible du jugement de Dieu car il est impur. Il dit, je suis perdu. Il est perdu sans espoir. Il était important pour le Seigneur qu'Ésaïe voie l'horreur de son péché et qu'il est impropre à la présence de Dieu en face de la sainteté de Dieu. Chers frères et sœurs, regardez en nous-mêmes, dans la présence de Dieu, trois fois saint. Peut-être avez-vous, vous aussi, des lèvres impures. Peut-être il y a quelque chose à corriger, à confesser devant Dieu, pour lui demander son pardon. Et il faut se repentir. J'aimerais, pour ne pas perdre de vue ce que nous avons évoqué dès les débuts, notre objectif est de voir comment faire face à la crise de toutes sortes. Ainsi, je me permets de faire le lien maintenant, si vous le permettez, avec le Covid-19. La crise que nous traversons actuellement avec le Covid-19 et ses conséquences multiples, je dirais, est une opportunité. Un outil entre les mains de Dieu pour révéler le mensonge dans notre manière de penser. Pour briser notre sécurité illusoire, factice. Pour illustrer cela, je voudrais vous parler d'une citation de l'œuvre de Edgar Morin, sociologue et philosophe, dans son dernier livre intitulé « Changeons de voie », où il tire les leçons du coronavirus. Je cite, page 31 de son livre, « Avant les années 80 et l'irruption du sida, la science pensait avoir éliminé virus et bactéries. Avant 2008, les économistes officiels assuraient que toute crise est exclue. Et avant 2020, l'humanité avait relégué les grandes épidémies au Moyen Âge. Puis, il continue en tirant la leçon sur cette sécurité factice et illusoire. Et je cite, « Notre fragilité était oubliée. Notre précarité était occultée. Le mythe occidental de l'homme dans le destin et de devenir comme maître et possesseur de la nature s'est effondré devant un virus. » Il fait allusion au Covid-19. Oui, sans la crise, un changement radical ne semblait pas nécessaire. Oui, la crise occasionnée par le Covid-19 est une opportunité entre les mains de Dieu pour révéler le mensonge de notre manière de penser, pour briser notre fausse sécurité illusoire dans l'économie, dans les finances, dans la science, en un mot, dans l'homme. Merci Seigneur, car le COVID-19, par la providence de Dieu, nous a fait ouvrir les yeux sur notre grand besoin d'avoir une vue juste de qui sommes-nous devant la sainteté de Dieu. Par ailleurs, peut-être, pour la plupart d'entre nous, avant la crise, nous disons avec joie que notre avenir est dans la main de Dieu. C'est vrai qu'il est plus facile de faire confiance au Seigneur lorsque nous nous sentons en confiance, en sûreté, aux commandes de notre vie. Pour résumer, quand tout va bien. Et la crise, subitement, va stopper cette illusion. Il brise notre sécurité illusoire, fantaisiste. Il est important pour le Seigneur que nous ressentons notre propre indignité, notre petitesse. Reconnaître le mensonge de notre cœur qui s'appuie sur notre propre force, pensant sincèrement, nous confions en Dieu. Et Dieu permet avec la crise, pour nous le dévoiler devant sa sainteté. En revenant sur Ésaïe, pour le Seigneur, il était important qu'Ésaïe voie l'horreur de son péché et qu'il était impropre à la présence de Dieu, comme nous l'avons évoqué, en face de la sainteté de Dieu. Oui, aucune personne consciente de son péché ne peut faire la fière devant Dieu quand elle réalise la gravité de son péché. Que Dieu permette par le moyen des crises dans notre vie pour venir à lui, devant sa sainteté, pour qu'il permette que nous puissions regarder, nous regarder de manière plus réaliste, conscient de l'horreur de notre péché, de notre propre indignité, conscient de notre besoin d'être touché par lui, besoin de sa miséricorde et de sa grâce, besoin devant sa sainteté que nous nous rendions compte du mensonge de s'appuyer sur nous-mêmes, que nous sommes rien. Oui, maintenant, comment faire en sorte que la crise soit bénéfique pour nous? Ce qui nous amène au dernier point de notre message, avoir une vision juste de la crise pour nous permettre de servir le Seigneur. J'entends la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? » Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Rappelez-vous la deuxième réaction d'Ésaïe devant le Dieu trois fois saint. Il disait, « Ses lèvres sont impures. » Les organes même, je dirais, de son service en tant que prophète pour Dieu sont sales. Oui, la parole d'une personne généralement reflète ce qui est dans son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu ne dit pas à Ésaïe, va laver tes lèvres, ni lui dire, efforce-toi de dire des choses justes pour compenser les choses sales que tu as dites et que tu as faites. Il n'a rien en lui-même pour le purifier de ses péchés. C'est Dieu qui a tout pourvu qu'il faut une intervention de l'extérieur venir le toucher. Nous lisons versets 6 et 7. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Une pierre ardente, soit il l'a prise sur l'autel des holocaustes, où le feu brûlait de façon perpétuelle. Soit, Il a pris sur l'autel des parfums où l'encens brûlait chaque matin et soir. Le texte ne nous le précise pas, mais une chose est sûre. Par cet acte symbolique, le péché d'Ésaïe était expié. Il est purifié là même où il se savait impur. Oui, la vision par Ésaïe de la gravité de son péché devant la sainteté de Dieu et la conscience du jugement de Dieu sur sa tête qu'il mérite n'ont pas découragé son élan pour le servir. Oui, Ésaïe sait que c'est un passage obligé, car il faut être saint pour pouvoir servir le Dieu trois fois saint. Pierre nous le dit clairement dans 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Je vous invite de le regarder. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Plus que jamais, Ésaïe est à l'écoute de ce que Dieu veut. Au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Non seulement il est à l'écoute de Dieu, mais il veut servir Dieu. Même si la tâche est ingrate, avec un message qui n'est pas une bonne nouvelle pour Judas. Au contraire, c'est l'annonce du jugement de Dieu envers son peuple. Aimiez-vous être à la place d'Ésaïe? Au risque de devenir impopulaire, au risque d'être rejeté. Écoutez un instant le contenu du message qu'il doit livrer au peuple de la part de Dieu. Versets 9 et 10. Va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Qu'est-ce qu'a-t-il fait Ésaïe? A-t-il reculé? Non, Ésaïe a obéi. Mais sachant la lourdeur de la tâche qui lui incombe, il s'est permis de demander à Dieu. Nous lisons au verset 11, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude. » Face à deux messages difficiles à porter, Ésaïe n'a pas fait volte-face. Il est allé vers l'avant. Et c'est un exemple. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Peu importe la difficulté de la tâche, ce que le Seigneur Dieu attend de nous, c'est que demande de ses dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, 2. Chers frères et sœurs, pour terminer, nous devrions nous rappeler, ne laissez pas la crise ni la difficulté de la tâche que le Seigneur vous demande d'accomplir vous empêcher de servir le Seigneur. Au contraire, considérez la crise que vous traversez comme une opportunité de grandir et pour servir le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, pour nous aider à vivre et surmonter la crise, nous avons besoin d'une vision juste de Dieu. Cela entraînera une vision juste de nous-mêmes devant la sainteté de Dieu pour nous amener finalement à avoir une vision juste de la crise, sa raison d'être, comme une opportunité pour servir, pour grandir. Oui, sans la crise, nous vivons avec de fausses illusions, dans les fantaisies, au risque de nous faire perdre de vue la vraie réalité immuable dans le ciel. Dieu est assis sur son trône très élevé. C'est-à-dire, il règne. Il est au contrôle de toutes choses. Oui, Dieu se sert providentiellement des crises pour nous encourager à nous rapprocher de lui, pour nous purifier, pour parler à notre cœur et pour nous appeler à le servir. Que Dieu bénisse sa parole.